journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue dans votre émission, votre espace de libre expression et de commentaires sur l'actualité, le journal des auditeurs. Pour participer en direct, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, nous attendons vos commentaires sur le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès. Le président français s'est exprimé ce lundi devant les parlementaires en baisse dans les sondages d'opinion. Il a fait plusieurs annonces, dont l'annonce d'un plan pauvreté qui sera mis en application dès 2019, ainsi qu'une refonte en profondeur du système des retraites. Alors, qu'avez-vous pensé de son discours? A-t-il su vous convaincre? Que retiendrez-vous de ces annonces? Je rappelle le numéro pour participer, 01 55 07 58 00. N'hésitez pas à nous appeler si vous nous écoutez en DAB+, du côté de Lille. Ça nous fera plaisir de vous entendre. Avant cela, direction le répondeur du JDA et d'Africa numéro 1 même, pour une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je voudrais rendre un vibrant hommage à la femme tunisienne. En effet, récemment, une Tunisienne a été élue maire de Tunis, la capitale de la Tunisie. Je voudrais lui rendre hommage. En effet, la femme tunisienne a été toujours à l'avant-garde des femmes arabes. Je voudrais par cette occasion aussi rendre hommage à l'ex-président Habib Bourguiba de la Tunisie, qui a joué un grand rôle dans la promotion l'émancipation de la femme tunisienne. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on partage ou qu'on partage pas son option politique, il faut reconnaître qu'il a joué un grand rôle pour la femme tunisienne. J'espère qu'il y aura d'autres femmes arabes aussi qui prouveront leur capacité à diriger une grande ville, pourquoi pas un pays. Je vous remercie.
Oui, bonjour amis auditeurs et auditrices, c'est Monsieur Diarra. Je lance un appel à toutes les patriotes maliennes et maliens de sortir à aller chercher vos cartes d'électeur massivement et dans tous les points de distributeurs de cartes d'électeur pour qu'on puisse aller voter contre ces bandits et ces manipulateurs qui est Aras Bach et ses alliés Soumaïla Cissé. Et celui qui nous a pillé des années, quand il était président de CMDT, il nous a pillé le dernier public comme il faut. Il s'enrichit en émo dans le dernier public. Donc, j'invite à tous les patriotes, tous ceux qui sont vraiment patriotes, sortir massivement, qu'on les sanctionne. Et déjà, Aras Bach n'arrivait pas à gérer sa famille, sa famille qui est le CDR. Aujourd'hui, ils sont éclatés à 1000 morceaux. Donc, quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer sa propre famille, que veux-tu lui confier le pays à celui-là, de confier à d'autres personnes, chers compatriotes? À bientôt.
Oui, bonjour, messieurs, dames. Voilà, moi, c'est Mamadou. Je vous appelle pour dire mon coup de gueule. Salfou Keïta, il m'a déçu. Franchement, il m'a déçu. Parce que Salfou Keïta, il nous dit, on n'a qu'à essayer Soumaïla. Mais il nous dit d'essayer. Mais ce n'est pas un jouet. On va essayer. Tu nous dis, j'ai confiance à telle personne, on vote pour lui. Mais tu nous dis, essayer. Essayer, essayer quoi? Déjà, lui-même, il n'a pas confiance. Il nous dit d'essayer. Ce n'est pas comme ça, ça se fait. Moi, je n'ai pas confiance. Parce qu'il a des choses à nous cacher. Déjà, il a des cheveux blancs. Il nous cache ses cheveux blancs. Il met des teintures, il nous cache ses cheveux blancs, mais donc, automatiquement, il doit avoir d'autres choses à nous cacher. Mais pourquoi il nous cache ses cheveux blancs? Pourquoi il ne peut pas rester nature comme tout le monde? Pourquoi il nous cache? On sait très bien qu'il a des cheveux blancs. Pourquoi il nous cache? Donc, il doit avoir d'autres choses à nous cacher. Moi, je ne suis pas content de Salif qui nous dit, on va le essayer. Ce n'est pas comme ça, Salif. Ça, c'est fait. Merci. Au revoir.
Oui, bonjour. J'ai appris qu'une expérience allait être menée en Afrique du Sud sur 2600 personnes indemnes de sida sur une nouvelle vaccination anti-sida qu'on vient de découvrir. Je pense qu'une fois de plus, l'Afrique est le cobaye de l'Europe. Dans ce domaine, on a déjà beaucoup donné. À la suite de la découverte du sida au début des années 80, de nombreuses expériences ont été faites en Afrique et elles ont toutes échoué de vaccins anti-sida. Les Africains n'ont pas été pris en charge par la suite. Beaucoup ont transmis les maladies s'ils ne sont pas morts. Une fois de plus, on impacte la population africaine. Mais pourquoi ne pas faire d'expérience en Europe? Pourquoi ne pas faire d'expérience en Asie? Le sida est une pandémie. L'Asie a aujourd'hui la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire plus de 5 milliards et demi d'habitants. N'est-ce pas? Pourquoi ne pas faire des expériences en Asie? J'espère que M. Ramaphosa est au courant et que son gouvernement est au courant. Je voudrais que les médias africains s'occupent du problème et nous parlent de nos problèmes, du problème des migrants, du problème de type d'expérience de ce genre-là, des problèmes de la démographie qui sont tous des bombes. Ils n'en parlent pas, ils nous annoncent des nouvelles qui ne nous intéressent pas et qu'on peut trouver dans n'importe quelle radio. Il faut qu'ils interpellent aussi les pouvoirs publics. Je vous remercie.
Oui, cher ami Jidéa, bonjour. J'évoque le cas du Soudan du Sud. Moi, je pense que dans tout état de droit, Éric Machar et son rival Salva Kiir, les deux, ils doivent être jugés devant les instances internationales. Au nom de quel droit ces deux gens se sont en train de déchirer, massacrer la population civile des milliers et des milliers de gens et créer la désolation, détruire le peu d'infrastructures qu'il y a dans leur pays et en fin de compte se rendre compte que non, tout ce qu'ils ont fait est nul, personne n'a gagné, il faut qu'ils se retrouvent ensemble, il faut qu'ils forment à nouveau un gouvernement d'union nationale. Mais ça c'est cruel, je pense que les deux doivent être jugés devant les instances internationales pour que de tels comportements cessent définitivement en Afrique. Merci, Max de la région parisienne.
Oui, bonjour Africa numéro 1, bonjour à tous les... Voilà, j'appelle justement parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'émission de fin de semaine, l'entretien de fin de semaine, je vous l'ai dit. Vous avez eu un entretien avec un monsieur dont j'ignore le nom, qui est responsable de la paix et de la sécurité en Afrique, je ne sais pas si c'est l'Afrique centrale ou si l'Afrique toute entière. La journaliste lui a posé la question de savoir vers la fin de l'entretien s'il était nécessaire ou alors par rapport aux rumeurs qui courent que l'envoi des casques bleus au Cameroun était nécessaire ou vrai ou faux par rapport à la rumeur qu'il sévit en ce moment. Le monsieur a dit carrément qu'il n'était pas nécessaire, que la situation du Cameroun en ce moment ne permet pas d'envoyer les casques bleus. Ah mais, vraiment, soyons sérieux, comment il peut dire des choses comme ça? Avec tout ce qui se vit au Cameroun, j'aimerais bien lui poser la question de savoir à quand ou alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'on envoie les casques bleus dans un continent ou dans une situation qui... Voilà, quand est-ce qu'il faut? Quand est-ce qu'on va pouvoir envoyer les casques bleus quelque part? Je demande à ce monsieur, quand est-ce qu'il pense qu'on devrait envoyer les casques bleus au Cameroun, si on ne peut pas le faire maintenant? Voilà la question que je pose. Merci.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Alors concernant le dernier message, j'informe le dernier auditeur qu'il a dû écouter le débat à BBC Afrique, Africa numéro 1, présenté par Liliane Natcha, et l'invité était Smaïl Cherghi, c'est le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Voilà, aujourd'hui dans le JDA, nous attendons vos commentaires sur le discours d'Emmanuel Macron hier, un peu plus d'un an après son élection, pour la deuxième fois, il s'est exprimé devant les parlementaires réuni en congrès, accusé d'être le président des riches. Le président français a tenté hier de convaincre, notamment sur sa politique sociale, en faisant de l'émancipation et de la lutte contre le déterminisme son socle. Avez-vous été convaincu? 01 55 07 58 00. Diomo de Beng est au standard. On va le prendre dans quelques instants. Emmanuel Macron a notamment déclaré que vouloir défendre par sa politique les entreprises et non pas les riches. Sur la question migratoire, il a dit que la réponse passait par un renforcement de nos frontières et une refonte du partenariat avec l'Afrique. Alors qu'en pensez-vous? 01 55 07 58 00. Diomo de Beng, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1, surtout à mon grand frère Bakayoko Kassim du côté de Noisy-le-Grand. Je reviendrai directement sur ce discours-là. Moi, je pense que, comme je l'ai dit au Standard, c'est la renaissance du pouvoir Macron. Parce que le président Macron a dirigé à un moment tout seul et en ne tenant pas compte de l'opposition à côté. Maintenant que ça devient difficile, le président Macron est obligé maintenant de réunir tous les parlementaires à Versailles afin de faire encore un discours. Parce que moi, je pourrais appeler ça un discours d'adhésion à la politique de Macron. Le nouveau discours d'adhésion à la nouvelle politique de Macron. Parce qu'il a vu qu'à lui seul, il ne pourra pas convaincre tous les autres chefs d'État. À commencer déjà par les États-Unis où il a déjà fait deux tentatives qui ont déjà échoué. Il est obligé maintenant de se rabattre maintenant sur sa force interne qui est le Parlement en France.
Diomo de Beng, ce discours, Emmanuel Macron veut en faire un rituel, c'était programmé, il l'avait dit l'année dernière, qu'il viendrait s'exprimer tous les ans devant le Parlement, voilà, pour faire le bilan, pour donner le cap de sa politique. C'est ce qu'on compare un peu au discours sur l'état de l'Union aux États-Unis. Il a même annoncé hier que l'année prochaine, dans cet exercice, les parlementaires pourront lui poser des questions.
Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Emmanuel Macron est en train maintenant de joindre le peuple à sa gouvernance. Parce qu'il était parti à un moment donné, comme il a eu la majorité, il a gagné à plus de 70%. Pour lui, il n'y avait pas d'opposition en face. Alors qu'aujourd'hui, l'Europe est frappée par une crise migratoire. Et la crise migratoire ne peut pas se régler entre que des chefs d'État. Il faut quand même l'adhésion de leur Parlement. Nous avons vu tout récemment, Angela Merkel a eu des problèmes pour former un gouvernement d'union.
Mais a-t-il convaincu le Parlement, Diomo de Beng, parce que Parlement, parce que ce discours a quand même été boycotté par la France insoumise et quelques républicains. Et quel est l'état de l'opposition aujourd'hui, mon cher Diomo de Beng?
Ben moi, je dis aujourd'hui que l'opposition est dans son rôle. Et aujourd'hui, l'opposition est en train de fragiliser le président Macron comme ils ont fragilisé déjà le président Hollande en son temps. Il faudrait que le président Macron a une chance à tenir, c'est de faire un discours, c'est de tendre la main à l'opposition. Parce que nous pensons aujourd'hui que la République en marche a plus de députés. C'est vrai, ils ont plus de députés. Mais ils ont des députés, excusez-moi du terme, je vais employer un terme un peu trop dur, mais c'est des députés novices qui n'ont jamais participé à un débat parlementaire si ce n'est pas maintenant. Alors qu'ils ont en face d'eux des éléphants de la politique.
Je ne comprends pas trop votre analyse, Diomo de Beng. Vous êtes en train de dire finalement qu'il s'est exprimé comme ça devant le Congrès pour convaincre les parlementaires et les mettre dans sa poche. Alors pensez-vous que ça ait marché?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que le simple discours ne suffit pas, il faut des actes. Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'opposition aujourd'hui n'en veut plus de l'immigration massive en France. Ça, c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron...
Vous en faites partie, Diomo de Beng?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je suis quand même l'un des opposants les plus modérés. C'est vrai que je ne supporte pas Wauquiez, qui est déjà le président de mon parti. Je ne le supporte pas, mais quand même, il faudrait essayer de revoir la politique migratoire de l'Europe. Ça, c'est sûr et certain. Et là, je suis sans équivoque là-dessus. Je suis issu de l'immigration, ça, je suis d'accord. Mais il faudrait essayer, il faudrait que les migrants qui arrivent soient partagés partout en Europe. Et tant que l'Europe ne se mettra pas d'accord pour partager ces migrants, ils seront toujours en désaccord et les présidents ne seront pas en phase avec leur Parlement puisqu'il y a toujours des oppositions. Et sachant que ces oppositions-là ne sont pas comme des députés africains où ils s'asseyent au Parlement et tout est comme des bénis oui-oui. Non, pas du tout. Ici, on réfléchit et on voit dans quel sens il faut donner une force à l'Union européenne. Il faut donner une force à sa gouvernance. Et aujourd'hui, le président Macron, moi j'ai salué ça, franchement, j'ai salué cette initiative. Mais l'initiative ne sera pas atteinte tant que l'acte n'est pas joint à la parole.
Alors ça, c'était sur la forme. Maintenant, sur le fond, Il est en baisse, Emmanuel Macron est en baisse actuellement dans les sondages, il est accusé d'être le président des riches. Hein. Alors voilà, au début de son mandat, il y avait cette espèce de politique, ce macronisme était défini par une sorte d'en même temps. Pour le coup, les observateurs ont du mal à voir les mesures sociales. Est-ce que vous pensez que dans son discours du Homo de Maine, il a essayé de réajuster le tir ou au contraire, il assume totalement sa politique libérale ?
Totalement sa politique libérale, ça c'est sûr. Vous savez, Stéphanie, moi je dirais devant tout Africa numéro 1, tout le monde entier, tous ceux qui écoutent Africa numéro 1, aucun président ne fera l'unanimité. Et Macron a été voté sur un programme de gouvernement. Ce programme de gouvernement-là, il faudrait que et les parlementaires et nous qui gouvernent actuellement et les citoyens de la France sachent que Macron a été élu pour un programme, il doit l'amener jusqu'au bout. Et c'est ça sa politique. Quand vous voyez par exemple la grève des cheminots, ça a été adopté, malgré ce qu'ils sont en train de faire. Le peuple souffre. Je vais vous dire un truc, Madame Stéphanie. Vous savez, le gouvernant ne regarde pas le peuple, il regarde ses intérêts et il regarde son programme. Nous avons vu aujourd'hui Donald Trump aux États-Unis. Donald Trump, il ne fait pas l'unanimité, mais toutes ces lois sont en train de passer et encore, il est en train d'avoir encore une cote de popularité encore plus intense. Et c'est ça Macron est en train de faire. Mais aujourd'hui, sur le plan migratoire, si Macron avait réussi le plan migratoire, il n'avait même pas besoin de parler au Parlement. Pas du tout. Mais aujourd'hui, il se voit en baisse. Parce que tout ce qu'il est en train de faire est en train d'être bloqué par le Parlement. Pardon. Surtout sur le plan migratoire.
Diomo de Beng, merci de cette analyse. On va écouter Brice dans quelques instants. Tout de suite même, Brice, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour en fait, Brice.
Bonjour, rapidement.
Prenez votre temps, allez-y, non, développez.
Ça a été tellement long tout de suite, je n'ai pas coupé aux autres auditeurs, là ça a été très long, mais par contre, juste dire à notre ami que je n'ai pas compris là où il voulait en venir en fait.
Moi non plus.
Parce que Macron a été rassembleur dans son truc, mais finalement ce n'était pas bon ce qu'il a dit. Donc en vérité, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Et ça, c'était mon opinion, même si vous avez essayé de comprendre, vous avez poussé un petit peu M. Diomo de Beng à expliquer mieux ce qu'il voulait, ce qu'il a au fond de lui. Il a beaucoup parlé de forme, mais on n'a pas compris dans le fond ce qu'il en pensait. Bah, c'est un peu l'effet Macron. Je rassemble tout le monde, je fais un discours, que je dise des bonnes choses ou des mauvaises choses, de toute façon, personne n'a de questions à me poser et j'ai une réponse à donner à personne. Et j'invite les gens à revenir l'année prochaine pour pouvoir me poser des questions.
Qu'est-ce que vous pensez justement de ce côté, seul contre tous, ou en tout cas d'Emmanuel Macron qui veut toujours expliquer, alors qu'il avait dit que sa parole serait rare, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit qu'il viendrait une fois par an devant le Congrès à Versailles, puisque la parole présidentielle serait rare. Elle n'a pas été si rare que ça, la parole présidentielle, ces derniers temps. Hein.
On a cru qu'on avait vu le summum de l'hyper-présidence avec Sarkozy. Je pense que M. Macron n'est pas moins hyper-président. Seulement, il est moins dans la démonstration que M. Sarkozy. Mais il est tout aussi présent, si ce n'est pas plus, parce qu'il a été très présent avant son élection, pendant son élection, et il le sera peut-être après. Bon, en tout cas, c'était juste pour dire que, en fait, à l'image de tous les politiques, ce ne sont que des discours qui, finalement, quand on reprend du début la question qui leur a été posée, une fois qu'ils ont posé la réponse, on ne se rappelle même plus la question qu'on a posée, on ne sait même pas de quoi ils ont parlé.
C'est de la communication.
Diomo de Beng a fait la démonstration tout de suite. Sincèrement, j'ai jamais aussi peu compris ce qu'il avait envie de dire en réalité. Ce monsieur-là, il parle très bien, mais j'ai jamais compris, jamais aussi peu compris ce qu'il voulait dire. Sincèrement, je ne sais pas où il voulait en venir, Diomo de Beng.
On l'a. Oui, alors non, mais nous non plus. Et je pense que lui-même, si on réécoute bien, il se contredit d'un moment à l'autre. Mais c'est pas grave. La parole est à tout le monde. Voilà, il a donné son impression. Moi, j'aurais bien aimé avoir voulu la vôtre, Brice, sur le volet social d'Emmanuel Macron. Depuis plusieurs semaines, il est accusé d'être le président des riches. Est-ce que vous avez identifié, vous, des mesures sociales du gouvernement ?
Sincèrement, non.
Est-ce qu'il a essayé de convaincre sur sa politique sociale hier ? Ou est-ce que finalement, non, il assume totalement ?
Pour être vraiment sincère avec vous, je n'ai même pas écouté. Parce que c'était, pour moi, c'est pas audible. Quelqu'un qui fait un discours et il n'y a pas de droit de réponse, pour moi, ça ne mérite pas d'être écouté. Quoi. Je n'ai même pas écouté. Sincèrement, je ne peux pas le critiquer. Je ne peux même pas lui dire qu'il a bien fait. Je n'ai pas écouté parce que voilà, ce monsieur-là, il ne m'intéresse pas depuis le début. Et je pense que jusqu'à la fin, il ne m'intéressera pas. Alors, je suis très pessimiste et pas du tout constructif, ça, c'est sûr.
Oui, mais on a le droit, vous savez, c'est l'eau tout le monde. Brice, mais du coup, est-ce que vous comprenez, vous saluez, ou vous êtes d'accord avec la position de la France Insoumise qui avait décidé de boycotter ce discours ?
Zemmour, je pense que France Insoumise a fait beaucoup de forme, en fait. Alors, elle a raison sous la forme.
Vous êtes blasé de tout, en fait, Brice.
Pardon ?
Vous êtes blasé de tout, en fait, Brice.
De tout, sincèrement, de tout. En fait, moi, déjà, la première chose, pour moi, sur la politique des migrants, les migrants, ils en ont beaucoup sur leur dos, en vérité. Tout le monde se jette sur eux dès qu'ils ne savent plus comment se sortir face à leur population. La première chose, pour moi, les migrants, pour moi, c'est à la France, à l'Angleterre, de gérer ces histoires de migrants. Je ne vois même pas pourquoi l'Italie est emmerdée avec ça, que d'autres pays d'Europe soient emmerdés avec ça. On connaît très bien l'origine de l'explosion de ce phénomène-là. Il vient de Sarkozy, il vient de Hollande, parce qu'ils ont fait ils ont eu des projets extérieurs dont on ne connaît même pas les effets positifs pour la France. Maintenant, les effets négatifs sont là, on demande aux Italiens de gérer le problème, aux Turcs et aux autres. On n'a qu'à les accueillir, comme ça, la prochaine fois qu'on a un président qui veut s'aventurer à l'extérieur pour faire des guerres qu'on ne comprend pas, eh ben, peut-être qu'on nous réfléchira, on sortira dehors pour manifester. Je ne comprends même pas cette histoire de politique de migration, tant on ne met pas la France et l'Angleterre devant leurs responsabilités d'abord. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on met tout le monde dans l'assiette et on veut que tout le monde participe. Et d'ailleurs, la France a beaucoup moins fait que l'Espagne et que l'Italie dans cette histoire de migration. Mais pourtant, elle est bien plus à l'origine des problèmes de ces gens-là. Pour moi, en tout cas.
Une politique migratoire peu lisible. Hein. C'est vrai qu'on a eu du mal à comprendre suite au Conseil européen il y a quelques semaines. Et hier, Emmanuel Macron a dit qu'il était hors de question de faire de la déportation au sein même de l'Europe. Brice, voilà. Merci beaucoup.
Je vous remercie pour m'avoir donné la parole et bon courage dans vos émissions difficiles à tenir.
Merci Brice. Oh, c'est la fin de saison, c'est vrai que ça s'essouffle un peu, ça s'entend. Hein. On n'a pas été en congé depuis longtemps, mais ça arrive d'ici la fin de la semaine. Merci à vous Brice. Dans un instant, je demande à Mamadou, de bien garder la ligne, le temps que je rappelle le numéro. Si vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron, ou pas d'ailleurs, hier, appelez-nous 01 55 07 58 001, venez nous dire ce que vous en avez pensé. Emmanuel Macron a notamment annoncé une réduction des dépenses publiques dans les semaines à venir, hein, sans pour autant décrire comment il ferait pour réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. En tout cas, c'est le constat qu'il a fait. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour Madame Atman, comment allez-vous?
Bonjour Mamadou, ça va, on est là, et vous-même?
Bah, ça peut aller, on attend le match ce soir, donc ça devrait aller.
Comment ça va du côté de la poterne des peupliers?
Bah, tout va bien.
Bon, tant mieux. On attend aussi le match de ce soir en France-Belgique.
Hein. Et tout d'abord, je salue mes collègues de Gonesse. Et je les dis bon courage, on est en route.
Ah, ils arrivent. Attendez, les gars de Gonesse, on arrive. Eh bien, on les salue aussi à Gonesse.
Ils nous écoutent là, madame.
Bon. Qu'ils nous appellent, hein, s'ils nous écoutent. Qu'ils n'hésitent pas, d'ailleurs, ça nous fera plaisir. 01 55 07 58 00. À vous l'antenne, Mamadou.
Bah, je vous remercie. En fait, je voulais dire que... par rapport à le discours de notre président hier, bon, moi, j'ai rien compris. En fait, je me demande à quoi ça sert de réunir des députés, des sénateurs à Versailles, chaque année, pour nous répéter la même chose. Déjà, de un, là où je ne suis pas d'accord du tout avec M. Jomot, comme d'habitude, que lui, il est le premier à appeler voter Macron. Et encore, il vient nous dire qu'il est le premier opposant. Là, je ne suis pas contre, mais la façon qu'il a analysé les choses, bah moi hier, je n'ai pas vu ça, et personne n'a compris. Parce que le monsieur, il vient, il fait d'abord son autocritique.
Oui, il a dit, je cite hein, Mamadou, parce qu'on a un peu de temps, il a dit, Emmanuel Macron, il a commencé son discours comme ça, hein, c'est pas une espèce de couvert d'humilité, il a dit, il y a une chose que tout président de la République sait, il sait qu'il ne peut pas tout, il sait qu'il ne réussira pas tout, et je vous le confirme, je sais que je ne peux pas tout.
Mais s'il le savait, pourquoi il nous promet? Il avait dit des choses que lui, il allait faire différemment, il allait faire mieux que les autres, n'est-ce pas? C'était ça le but de son mandat. Je suis plus jeune, je suis plus instruit, je connais tout, les autres ne connaissent rien. Donc maintenant qu'il est dedans, il voit que sa politique n'apporte rien du tout pour l'instant, parce que pour moi, concrètement, dans ma vie ici, j'ai pas vu de changement. Donc, moi, tout ce que je peux dire, que j'ai pas grand-chose à dire, parce qu'il a rien dit pendant une heure et demie. Bon, il a mis le crème bien sur lui-même, que voilà, je suis pas le meilleur, je suis pas tout. Maintenant que, voilà, qu'il a compris que, pour l'instant, on ne voit pas le fruit de son politique.
Il a inventé ses réformes, hein, voilà, il y a eu un rythme très accéléré, durant cette première année. Il a annoncé d'autres réformes l'année à venir, notamment la refonte du système des retraites, un système qui fait toujours sortir des milliers de gens dans la rue, cher Mamadou.
Madame, on dit, le problème, la vie, ce n'est pas un course de vitesse, c'est un course de fond, n'est-ce pas?
Oui.
Ce n'est pas celui qui arrive en premier, mais celui qui arrive sans échauffe. Donc, il voulait faire du vitesse. Finalement, il a compris qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, parce que concrètement, moi, les mesures qu'il dit, là, bon, ça soit retraite, toujours, là, c'est la même chose. Parce que la retraite, lui, quand il va aller à la retraite, il va toucher 40 fois plus que moi, qui a bossé peut-être transpiré mieux que lui. N'est-ce pas? Donc, toujours, il décide pour les autres. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il propose pour les gens qui d'en bas, qu'est-ce qu'ils ont. Rien du tout.
C'est ce qu'on lui reproche, effectivement, hein, de faire des mesures pour les entreprises, pour les entrepreneurs.
Mais bien sûr, c'est la réalité. Il les a donné le pouvoir et tout. On rappelle, hein, M. Gattaz avait promis 1 million d'emplois avec M. Hollande. Et on les aide. C'est sûr, ces gens-là les assistent. Ce n'est pas nous qui touchent 800 ou 400 euros. Les gens qui touchent 500 euros par mois, on les appelle les assistés, comme M. Wauquiez le dit. Et ce n'est pas vrai. Donc, les assistés, c'est les entreprises, c'est les gens qui ont les moins. Il a supprimé l'impôt sur la fortune. Et ça va où? L'argent est où? Il est investi?
Ils ont fait une petite étude d'ailleurs. Finalement, ils ont remarqué, je ne sais plus quel observatoire a fait cette étude, ils ont remarqué qu'avec la suppression de l'ISF, finalement, les riches faisaient beaucoup moins de dons avec des déductions fiscales, puisqu'ils n'avaient plus besoin, puisque l'ISF avait été supprimé. Je vous remercie beaucoup, Mamadou. Je ne sais pas si c'est Serge du côté de Gonesse, mais on va écouter Serge. Bonne journée à vous, Mamadou. Serge, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Serge. Vous voulez intervenir, vous parlez effectivement de la stratégie pour faire remonter sa popularité. Il a perdu au moins 6 points, il n'est pas loin de François Hollande à la même époque, hein. Comme quoi?
Effectivement, moi, c'est ce que je disais tantôt au monsieur que j'ai eu à l'accueil, c'est que pour moi c'est de la stratégie, étant donné que les sondages étant en baisse, donc il fallait effectivement qu'il occupe le terrain. Et d'autant plus que pour moi, par rapport à ce discours, qui n'est pas forcé, parce que là, on parle beaucoup de la crise migratoire, mais en fait, il n'a pas que parlé de ça.
Non.
Mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas de la faute à Macron non plus. Hein, c'est que ce que les gens ne disent pas, c'est qu'actuellement, on vit... c'est la récession, en fait, actuellement en France. Hein.
On veut pas non, la récession, c'est quand il y en a des taux de croissance négatifs, ce qui n'est pas le cas, puisque la croissance était plutôt bonne.
Non, mais c'est ce qu'ils disent. Madame Stéphanie, moi j'habite à Paris, dans le 20e. Je voudrais que, de toute façon, vous aussi, vous connaissez mieux que moi.
Je connais bien le 20e en plus, mon cher Serge.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que faites le tour de Paris. Moi, je suis arrivé en France en 88. On n'a jamais vu autant de pauvreté. Je veux dire, autant de misère. Vous n'avez jamais eu autant de personnes qui dorment dehors. Mais c'est infernal, Paris est devenu... Mais quand je dis Paris, il n'y a pas que Paris, la France. Mais parce que moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que lorsque j'entends les journalistes, c'est-à-dire ce que vous appelez souvent vos collègues, qui sont soi-disant des spécialistes, pour moi, ce ne sont pas des spécialistes. Ils jouent le jeu du gouvernement souvent parce qu'ils disent des choses, alors ça remonte, mais en fait, on sent très bien que ça va très très mal. En France, ça va très mal. Et je peux vous dire que beaucoup de personnes, d'ailleurs, regardez autour de vous, beaucoup d'Africains sont en train de retourner, même si vous avez une grosse vague qui arrive. Mais cette grosse vague-là arrive, c'est parce que, bon, c'est un désespoir. Hein. Ils se disent, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Mais c'est une fois sur place, il y a cette réalité qui les rattrape. Allez voir le nombre d'Africains. Quand j'ai dit les Africains, d'ailleurs, de toutes les nationalités du monde. Hein. Les gens dorment dehors, les gens boivent, les gens deviennent clochards, c'est-à-dire qu'il y a une société de clochards.
Vous dites qu'il y a une paupérisation de la société en France, c'est ça, hein?
C'est ça, donc que ça soit Emmanuel Macron ou pas, mais moi je pense que le monsieur, en fait, moi j'ai pas voté pour lui, hein, je vote toujours à gauche, bien que lui, on sait pas trop s'il est de gauche ou de droite.
On commence à le savoir, Serge.
Voilà, mais je pense quand même qu'il essaye, il lance des bouées de sauvetage un peu partout, il essaye de faire, parce que moi je connais pas un homme politique qui arrive au pouvoir et qui fait tout pour que ça ne marche pas. Non, c'est parce que pour l'instant, personne n'a le truc magique, en fait. Personne ne l'a. Personne ne l'a, même ceux qui parlent contre Macron. Moi, je ne l'ai pas. J'essaye de voir comment on peut... Mais je pense
Est-ce que ce n'est pas le système capitaliste lui-même qui est la responsable, parce qu'on parle effectivement de croissance qui finalement ne crée pas d'emploi, ne profite pas à tous. Voilà, est-ce que ce n'est pas le système qui est un peu en panne?
Mais bien sûr, Madame Stéphanie, vous savez, le vrai problème de l'Europe actuellement, pour ne pas dire surtout de l'Europe, hein, parce que même si les États-Unis ont toujours eu cette immigration, mais que plus ou moins ils ont plus ou moins contrôlé, mais en Europe, c'est une catastrophe. Ce que je veux dire, c'est que c'est la politique de domination qu'a eu les pays européens vis-à-vis des pays africains. Ça veut dire que nous, en Europe, ce qu'on oublie, c'est que si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes en Europe, des grands pays, c'est grâce à l'Afrique, c'est-à-dire grâce au pillage qu'il y a eu dans ces pays et qui continue à y avoir. Donc ce qui fait que ne pensez pas demain que la France, je prends l'exemple de la France, que la France laissera tomber son économie pour les beaux yeux des Africains. Non, ça va continuer. C'est d'ailleurs pour ça que cette immigration continuera. Il n'y a pas la seule chose à faire, c'est faire en sorte que en Afrique, on essaye de développer plus ou moins pour que les gens, parce que les Africains...
Exploiter soi-même les richesses aussi, c'est ça, ce qu'on appelle aussi revoir les termes de l'échange.
Moi qui vous parle, Madame Stéphanie, je travaille au ministère de la Justice. Je vous avoue que quand je vais au Cameroun, je suis d'origine camerounaise, mais qu'est-ce que j'aimerais bien rester? Il y a tout, j'ai tout. Il y a la forêt, on peut cultiver et vivre très très bien, mais les gens pensent toujours
On arrive à la fin, Serge. On a bien compris, je pense que vous avez bien compris ce que vous vouliez dire, effectivement, hein, une espèce de mauvaise répartition, l'inégalité des répartitions des richesses dans le monde. Merci beaucoup, mon cher Serge, Jean Bégaye, pour votre intervention. Vous l'entendez, hein, c'est la fin de cette émission. Elle sera rediffusée ce soir aux environs de 19h20. Je vous remercie tous, sans exception, de votre participation. On se donne rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. En attendant, prenez grand soin de vous et aussi des autres, hein, c'est important. À l'écoute d'Africa numéro 1, la radio africaine. À demain.